sous le béton, la sève. Un podcast produit par l'ADEAC. Avec les voix de Marc-Henri Boisse et Emma Deschandolles. Épisode 4.
Voilà, donc là, je vais vous emmener voir un petit peu ce que, au niveau vue actuelle et la vue qu'on aura par la suite. Au premier étage, au deuxième, on aura là, on a une vue sur le boulevard. Et après, on aura vue sur un mur. On a le soleil le matin, toute la façade est. Après, on aura un mur, on n'aura plus du tout de soleil donné par la fenêtre. Donc là, vous voyez, la vue actuelle, c'est une vue dégagée, c'est une vue lointaine. Et bien après, il y aura un mur de 17 mètres de haut. Et bien au deuxième, je vais vous montrer également. Donc la vue est encore plus haute et plus dégagée. Le mur va être aussi haut que la maison. Voilà. Allez, là, c'est pareil. Donc là, vous avez la vue dégagée. Ben, là, il y aura un mur, il n'y aura plus de soleil. Pareil, dans la chambre d'à côté. Vous voyez, si je vous écarte le rideau, voilà. J'ai la fenêtre. Voilà, il y aura 3 mètres là, il y aura un mur. Voilà.
Béatrice, ma chère voisine, comme j'aurais aimé rester tout près de vous. Tous les matins, vous auriez continué à ouvrir vos fenêtres au printemps et en été. Le petit peuple qui m'habite aurait enchanté vos réveils de chants foisonnants, pleins de vie, vous portant doucement vers une journée pleine d'espoir. Une renaissance chaque matin. À la tombée de la nuit, des chauves-souris auraient virevolté. La brise légère du soir dans ma ramure aurait préludé votre sommeil. C'est le grand marronnier qui vous parle. Je ne suis plus planté devant vos fenêtres, mais de là-haut, je regarde ce qui se passe. Il est prévu que désormais, c'est un mur de béton qui présidera à votre réveil comme à votre sommeil. Oui, vraiment. J'aurais tant aimé vous tenir compagnie chaque jour pour quelques dizaines d'années. Pour vous, vos enfants, petits-enfants, mais une poignée d'hommes et de femmes en ont décidé autrement. C'est ainsi qu'à l'été 2022, j'étais là, entouré de mes deux acolytes, aujourd'hui également abattus. François Roumet, architecte paysagiste, passait à vélo boulevard de la Courtille, juste devant moi.
En juillet 2022, j'ai vu l'annonce de la lanceuse d'alerte de l'époque. Et j'étais un des premiers à réagir, puisque c'était au mois de juillet, puis après elle a relancé au mois d'août, à propos de ces marronniers. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Je suis allé voir sur place directement et j'ai vu ces trois marronniers qu'on remarquait juste en montant en vélo dans la Courtille. C'était trois beaux arbres, surtout un qui était gros, baraqué, grand, et les deux autres étaient moins bien. Mais les trois formaient une équipe, un peu comme une équipe de rugby où on a les gros costauds devant et puis on a les autres qui ont d'autres qualités qui forment le reste de l'équipe. Donc ces trois marronniers formaient un trio qui était un témoin d'un ancien parc qui devait être sur les lieux avant que la chambre de métier soit construite, et un parc qui s'installait sur les arrières de ces maisons bourgeoises de la Courtille. C'était des arbres non fruitiers, ils étaient là pour l'agrément. Ils étaient d'ailleurs placés sur une petite butte, donc ils formaient un peu un côté christique sur leur petit tertre. Et ils étaient dans une situation intéressante, comme des témoins, comme des petits vieux qui sont là et qui parlent de l'histoire du lieu, qui parlent des qualités qu'il y avait sur ces arrières de jardin qui devaient donner sur la campagne au début du XXe siècle, tout simplement. Il y en avait un qui avait un trou en hauteur, mais ils s'en remettaient. Et ils étaient costauds, ils se tenaient ensemble et ils étaient vraiment intéressant pour ça, remarquable à la fois par ce qu'ils racontaient du passé, par leur situation et par leur présence.
Costaud, remarquable, un côté christique. Merci pour cette description avantageuse. Tout semblait parfait dans un monde idéal. Alors pourquoi François Roumet parle-t-il de lanceuse d'alerte ? Béatrice, peut-être le sais-tu ?
Depuis avril 2022, il y a eu un permis de construire de déposé pour une construction d'immeubles voisines de notre maison. Nous avons découvert au fur et à mesure que la société qui est responsable du permis de construire était responsable à 60% dans ce projet et la ville à 40%.
Aïe ! Voilà les affaires et la politique qui s'y mettent. Pour mieux comprendre tout cela, Patrick Chenevrel, lui aussi architecte, nous explique en détail les racines du problème.
Le promoteur qui a déposé les deux permis de construire est associé avec une SPL, Société publique locale, laquelle est présidée par Madame Fromont, première adjointe de Chartres, ce qui ressemble beaucoup à un conflit d'intérêts. Donc ces deux projets ont été autorisés à cause d'un PLU qui permet de construire très haut, très large, et presque l'entièreté du terrain sera un parking couvert. Parlons seulement du permis de construire côté courtis, celui qui concerne de plus les marronniers. Le promoteur a déposé un permis de construire où sur les plans, on aperçoit des petits arbres qui sous-entend que les grands marronniers vont être abattus, mais ce n'était pas explicite dans le permis de construire.
Le permis d'abattage n'avait pas été mis en même temps que le permis de construire. Or, normalement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc, il y a eu également plusieurs procédures de fait par rapport à cela. Mais au final, le promoteur a eu gain de cause. C'est-à-dire que le tribunal administratif a dit que c'était possible, sachant que les trois marronniers étaient plantés dans un espace boisé classé. Je me dis que les arbres qui sont dessus sont protégés. Or là, le promoteur pour trois marronniers centenaires qui étaient magnifiques et qui apportaient beaucoup de verdure et de frais, la mairie n'a pas hésité à accorder ce permis d'abattage.
Ayant eu vent de ce projet d'abattage qui nous a vraiment beaucoup étonnés, car ces arbres sont en espace boisé classé, c'est-à-dire un espace où les arbres sont protégés et ne doivent pas être abattus sans vraiment de raison valable. Et là, il n'y avait pas de raison valable, si ce n'est que ces arbres gênaient le promoteur pour construire ces logements qui venaient se construire à ras de l'emprise de cette EBC. Au courant de ce projet d'abattage, une vingtaine de citoyens ont veillé à être présents le jour où le promoteur a envoyé des ouvriers avec des tronçonneuses pour abattre les arbres. Et sous les marronniers se trouvaient donc quelques citoyens très mobilisés pour empêcher cet abattage.
Moi, c'est Amandine, citoyenne chartraine. Il y a eu une mobilisation dès le 22 août 2022 qui a commencé donc à faire en sorte qu'il y ait eu une dizaine, puis vingtaine, puis trentaine, quarantaine de personnes qui ont commencé à occuper le lieu pour protéger ces marronniers centenaires qui étaient sur une zone boisée classée. Donc c'était vraiment illégal de faire ce projet. Donc ça a donné à une mobilisation, une ZAD, où en permanence, pendant une trentaine de jours, il y a eu un relais incroyable entre plusieurs générations, que ce soit des ados, des adultes, des personnes à la retraite, etc., de tous bords, citoyens, citoyennes, encartés, pas encartés, d'associations différentes qui sont venues. Et ça a duré donc précisément 37 jours jusqu'à ce que la justice nous donne raison. Il y avait une astreinte sur chaque arbre, c'est-à-dire que chaque arbre avait une valeur entre guillemets de 500 000 euros, c'est-à-dire que si le promoteur immobilier touchait, mais ne serait-ce qu'à une seule branche d'un marronnier, il devait payer cette somme vraiment très dissuasive. Et à partir du moment où la justice nous a donné raison, on a quitté les lieux dès le lendemain. Mais au fur et à mesure, après cet été, il y a eu la ville de Chartres qui a commencé à plus nous soutenir et à soutenir le promoteur.
Amandine, comment pourrais-je oublier ta voix ? Toi qui t'es battue corps et âme pour que je continue de vivre, tout comme ces autres citoyens qui m'avaient protégé des lames tranchantes des bûcherons en me tenant compagnie pendant des semaines. une mobilisation qui m'a touché au plus profond de mon écorce. J'absorbe le carbone depuis des lustres et vous offre l'oxygène dont vous avez besoin. Mais pour le combat administratif, j'avais besoin de vous, mes défenseurs.
Au début de la mobilisation, la préfecture s'en est émue et donc l'État a voulu jouer le médiateur. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une délégation qui a été appelée à aller à se rendre à la préfecture. J'y suis allé, on était reçu par la préfète, qui était un personnage assez cocasse finalement, qui ne connaissait rien à rien, qui n'avait rien à foutre de ce qu'on allait dire. Son objectif, c'était de ramener la paix sur la place, quoi, tout simplement. Il y avait la mairie qui était représentée par Madame d'Orange, et il y avait donc le directeur du cabinet de la préfète, et personne qui représentait le pétitionnaire, M. Bourguignon, qui avait déposé son permis de construire. Et tout au cours de l'entretien qu'on a eu de la réunion, les rôles changeaient progressivement. La mairie défendait le permis de construire comme si c'était elle qui l'avait déposé. Donc elle prenait le rôle du pétitionnaire. Alors c'est vrai qu'elle est partie, la mairie était partie prenante dans le projet, donc elle avait investi des billes dedans, mais ce n'est pas ce qui nous a été dit au départ dans la répartition des rôles. Et j'aurais attendu d'avoir le vrai propriétaire à plus de la moitié des parts pour défendre vraiment le projet, parce que c'est quand même l'initiative venait de M. Bourguignon, et ne venait pas de la mairie qui a suivi le mouvement, tout simplement, quoi.
On peut être très étonné de penser que le promoteur de ces deux résidences était, entre guillemets, représenté par une élue. C'est une situation qui n'est pas tout à fait normale.
Finalement, il manquait surtout le promoteur et l'État qui devait se positionner en arbitre. Et le rôle d'arbitrage de l'État s'effaçait progressivement pour devenir carrément dans le rang de la mairie, ce qui faussait complètement les conversations, donc, avec certains retournements de langage qui étaient assez drôles. Au début, quand la préfète nous reçoit, elle précise d'entrée de jeu qu'elle a interrompu ses vacances pour nous recevoir. Donc c'était intéressant comme information, mais bon, ce n'était pas le but de la réunion. On a entendu la préfète qui nous disait « mais ces arbres n'ont pas de valeur ». Donc on a expliqué qu'ils avaient une valeur, qu'ils avaient une présence, etc. « Ces arbres ne représentent rien », etc. Mais pourtant, ces arbres étaient espaces boisés classés dans le PLU, donc protégé de fait. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec une protection aussi forte que celle-là. C'est la plus forte qu'on a dans un document d'urbanisme. La mairie faisait semblant d'ignorer l'importance de cette protection et disait qu'elle allait remplacer ces arbres par d'autres. La préfète défendait la mairie en prenant le rôle de la mairie. On ne savait pas bien qui parlait et qui assurait vraiment son vrai rôle. Donc c'était une espèce de jeu de cache-cache pour pas nous dire grand-chose.
Mon destin et celui de mes congénères dépendaient donc d'un jeu de cache-cache. Pourtant, j'étais là depuis longtemps. Je les ai même vus naître, ceux-là même qui voulaient me faire la peau, même s'ils prétendent le contraire.
Madame d'Orange, qui était donc présente, a assuré avec beaucoup de culot que les arbres, les trois marronniers, n'avaient que 40 ans, ce qui est un mensonge, puisque ces arbres sont plus que centenaires.
Puis à un moment, la préfète a dit « mais de toute façon, les arbres vont être abattus pour créer des logements, et sans doute qu'il y a des logements sociaux, n'est-ce pas, Madame d'Orange ?» Donc elle se retourne vers Karine d'Orange qui dit « ah non, il n'y a pas de logements sociaux ». En fait, c'est des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, et qu'ils se passaient la balle comme ça, sans avoir préparé le dossier.
Bon. Eh bien, c'était mal barré, ce rendez-vous chez la préfète. Mais comment diable les lois peuvent-elles être contournées à ce point ?
Le retournement de situation qui s'est passé au niveau du tribunal administratif par rapport à l'abattage des arbres, je pense qu'il doit s'agir de pression, soit en disant mais il faut absolument que Chartres augmente son nombre d'habitants, il faut absolument construire, ou de façon tout à fait mercantile.
Quand cette même préfète nous a dit qu'elle était là pour aussi nous rappeler qu'il fallait attirer des gens à Chartres avec un certain niveau de vie, avec des revenus pour participer au rayonnement de la ville et participer à l'enrichissement de la ville, on s'est regardé les uns les autres. c'était pas non plus notre cheval de bataille, et je pense pas que ce lieu était fait pour attirer forcément des gens à haut revenu. Ce qui montrait bien, par ailleurs, qu'elle était en contradiction quand à un autre moment, elle nous a dit « mais il va y avoir des logements sociaux dans ce bâtiment ». Donc elle était prête à dire tout, n'importe quoi, son contraire, pour essayer de nous emmener vers des contradictions. Mais finalement, elle n'avait pas travaillé son dossier, c'était n'importe quoi.
En septembre 2022, nous avons aussi lancé une pétition nationale en ligne sur change.org qui a obtenu rapidement 27 000 signatures. L'abattage des arbres a été reconnu non conforme au PLU dans un second temps puisque les arbres n'étaient pas conformes au PLU qui disait que des arbres devaient avoir une taille équivalente aux arbres abattus. Et donc, le promoteur a redéposé une demande en disant qu'il planterait des tilleuls de Henri, qui sont en fait des arbres qui ne dépassent pas 15 mètres de haut. Mais malgré ce petit mensonge, le droit d'abattage a à nouveau été reconnu par la ville de Chartres. Donc, on s'est trouvé en situation où légalement, l'abattage pouvait avoir lieu. C'est pour ça que, sans prévenir, ils sont venus abattre les arbres le 15 février à l'aube. Et malheureusement, ce jour-là, n'ayant pas été prévenu, seule Amandine était là le matin pour pouvoir s'opposer, la pauvre, à l'armada des élagueurs.
Regardez sur le boulevard Chasles, quand on fait le parking, on a coupé tous les platanes. Ils étaient tous morts, creux, à l'intérieur, dangereux.
Les tilleuls de la place du Cygne, malades ? Les robiniers de la cathédrale, malades ? Et maintenant, mes frères marronniers et moi, malades aussi ? Le maire nous prend d'ailleurs pour des platanes, preuve que le diagnostic se fait parfois sans même connaître le nom du patient. Pourtant, je ne me sens ni mourant, ni creux, ni dangereux. Il est temps de comprendre ce que veut vraiment dire malade.
Un arbre creux n'est pas un arbre malade, ou un arbre, plus fréquemment, qui a un trou dedans, dans lequel peuvent nicher des oiseaux ou des insectes à plus faible échelle, n'est pas un arbre malade. Un arbre vit par sa périphérie. Les tissus vivants sont sous l'écorce et à l'écart du bois de cœur, qui, lui, est un bois mort, et qui n'est là que dans un rôle structurel, pour retenir physiquement l'arbre. Si ce bois de cœur meurt, l'arbre peut très bien continuer à se maintenir par son bois de périphérie. C'est une question de regard, d'expertise, pour voir si le poids des branches, le poids des feuilles, la prise au vent ne sont pas trop importantes par rapport à la résistance du matériau tronc. Donc on peut toujours prétendre qu'il y a des trous, donc il faut l'abattre. Ça, c'est des raccourcis qu'il faut modérer, surtout quand ce sont des arbres qui sont anciens, auxquels on tient, parce qu'ils ont un rôle de rafraîchisseur, de climatiseur important à l'échelle de la maison ou du quartier. Chaque fois qu'il y a des arbres à abattre, les arbres sont malades, que ce soit les marronniers ou plus tard les robiniers, ils sont toujours malades. On peut toujours déclarer qu'un chien est malade pour pouvoir l'abattre. C'est le même principe.
Une mobilisation, un rendez-vous à la préfecture, des actions en justice, et maintenant une pétition. Voilà de quoi me rassurer quant à mon avenir. Mais c'est oublier l'appât du gain. Un promoteur soutenu par la mairie et par la préfecture d'un côté, un collectif de citoyens de l'autre. C'est David contre Goliath. Et Goliath, il allait tout mettre en œuvre pour concrétiser son rêve de béton.
Quand on a vu cette autorisation de la ville de Chartres, l'association ADEAC, qui a été créée après cette ZAD des marronniers, a porté un recours complètement gracieux. Et donc, dès janvier, on a commencé à être aux aguets. Et pendant plusieurs semaines, on a organisé un tour de garde, de veille. C'est-à-dire que chaque matin, voire parfois l'après-midi et le soir, mais au moins chaque matin, on était deux, trois, ou tout seul, à surveiller les arbres, à faire des rondes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes qui allaient les abattre.
Sans prévenir, ils sont venus abattre les arbres le 15 février à l'aube. Et malheureusement, ce jour-là, n'ayant pas été prévenu, seule Amandine était là le matin pour pouvoir s'opposer, la pauvre, à l'armada des élagueurs.
C'était un jeudi matin, beaucoup de personnes travaillaient. J'étais de garde, entre guillemets, ce jour-là. Et je suis partie de chez moi à 7h30. J'ai commencé à marcher boulevard de la Courtille et c'est là que j'ai vu qu'il y avait déjà, sur les trois arbres, deux qui étaient abattus. Il en restait un, et là, mon cœur, il a battu la chamade. J'ai couru, j'ai escaladé la grille, j'ai crié « Vous n'avez pas le droit !» J'avais le recours imprimé dans ma poche pour pouvoir le montrer aux personnes qui étaient là. Il y avait le promoteur immobilier, il y avait des bûcherons. Il y avait déjà un ami qui est arrivé sur les lieux, mais c'était trop tard, il y avait déjà la gendarmerie. Et après, ça arrivait en masse. Je suis persuadée qu'il a eu lieu très tôt le matin pour qu'il n'y ait pas d'opposition. Quand je suis arrivée, il faisait encore à peine jour, vu que c'était au mois de février. Je me souviens des premiers lampadaires qui commençaient à s'éteindre. Et ça s'est passé très rapidement. J'ai envoyé des textos à tout le collectif pour qu'il puisse arriver sur les lieux pour s'y opposer. Et j'ai été complètement humiliée, c'est-à-dire que le promoteur immobilier déjà m'a tenue par le bras. Ensuite, il m'a dit « mais vous savez très bien que je fais ça pour l'argent ». Il m'a dit « qu'est-ce que vous faites là ?». Il a vu que je textotais pour alerter mes amis, donc il a commencé à dire « oh, comme c'est dommage, vous appelez vos amis ». Donc vraiment un ton méprisant, pas du tout respectueux. Et là, il a commencé à appeler la police, donc... 3-4 policiers sont venus. Moi, je refusais absolument de partir. J'avais le dos contre l'arbre et je leur ai dit « je resterai là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a un recours gracieux. Normalement, vous devez prendre en compte cela et que ce soit clairement traité par la justice. » Ils n'ont pas entendu ma parole. Heureusement, quand même, il y a un policier qui a regardé le recours, qui l'a lu. Et après, les policiers m'ont pris. Donc, un policier pour le bras gauche, l'autre pour le bras droit et les jambes aussi. Donc 4 policiers pour me traîner le long du chantier. Et j'ai pas été du tout violente, hein, je me suis laissée porter. Et après, ils m'ont mis de l'autre côté du boulevard. Tout ça, ça a duré 24 minutes entre le premier texto envoyé et le fait que je sois expulsée des lieux. Ça a duré 24 minutes.
24 minutes. Mes dernières 24 minutes. Celle d'un condamné à mort qui, dans sa peur, se voit rassuré par les bras vivants d'Amandine, enlacé autour de mon tronc. Sa peau tiède, frémissante de vie, contre mon écorce. Ses larmes tièdes et vibrantes contre ma sève. Ultime échange avec le vivant. Ultime minute qui s'effrite. Ultime seconde suspendue au souffle de la vie. Ultime...